Bonjour.
Bonjour Tofik, bonjour à tous. De première vaccination contre le Covid-19 en France dès la dernière semaine de décembre, mais pas avant la fin du printemps pour la population non prioritaire. Jean Castex a dévoilé hier la stratégie vaccinale du gouvernement en promettant la transparence pour susciter la confiance, vous l'entendrez. Et ce alors que la Chine se tourne finalement vers le vaccin américano-allemand Pfizer-BioNTech pour vacciner une partie de sa population, nous irons à Pékin. Un verdict mesuré au terme d'un procès historique. La Cour d'assises spéciale de Paris a condamné hier les 14 complices des attentats de janvier 2015. Entre 4 ans de prison et la réclusion criminelle à perpétuité. Réaction de l'avocat de Charlie Hebdo, Richard Malka, dans cette édition. Et puis nous irons à Hong Kong où les procès s'enchaînent ces derniers mois contre des militants pro-démocratie. Ils avaient été plusieurs milliers à être arrêtés l'année dernière. Le Premier ministre annonce donc de premières vaccinations en France dès la dernière semaine de décembre. Le calendrier a été avancé. Jean Castex l'a détaillé hier après-midi dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. C'était devant les députés.
Notre campagne débutera, conformément à cet avis, par les personnes les plus âgées accueillies dans les établissements comme les EHPAD. Cette première phase concerne environ 1 million de personnes. Et cette campagne, mesdames et messieurs les députés, va débuter dans les tout prochains jours, dès que nous aurons eu la décision d'autorisation de mise sur le marché de l'Agence européenne du médicament, qui est attendue le 21 décembre prochain. La Haute Autorité de Santé donnera son avis concernant les conditions d'utilisation du vaccin. Si toutes les conditions sont réunies, les premières vaccinations pourrait donc être réalisé dès la dernière semaine du mois de décembre, avant de monter en puissance à partir de début janvier.
Une première vaccination qui devrait donc toucher plus d'un million de personnes âgées ainsi que le personnel des EHPAD. Jean Castex fera ce même exercice d'explication devant les sénateurs aujourd'hui. Sénateurs qui demandent eux aussi de la transparence dans la prise de décision. La France attend donc l'aval des instances européennes pour lancer sa vaccination. D'autres pays ont déjà commencé à vacciner. C'est le cas notamment des États-Unis. Sachez d'ailleurs que le vice-président Mike Pence se fera vacciner demain en public. A-t-il dit. Vaccination aussi en Chine après un produit depuis plusieurs semaines déjà en Chine. On apprend par ailleurs que le chinois Fosun Pharma va importer l'année prochaine au moins 100 millions de doses du vaccin de Pfizer-BioNTech, celui qui est utilisé justement aux États-Unis. Explication depuis Pékin de Stéphane Pambrin.
Cela représente une infime partie de la demande chinoise en vaccin, moins de 10% de ce qui doit sortir des laboratoires dans les prochains mois. Mais cette commande du chinois Fosun Pharma est le premier coup de canif dans la stratégie consistant pour la Chine à être totalement indépendante dans ce domaine. Fosun Pharma est une filiale du conglomérat Fosun International, propriétaire notamment du Club Med, et l'entreprise privée, si elle reste discrète sur ses motivations, y voit certainement l'occasion de satisfaire certains Chinois circonspects quant à la qualité des vaccins produits localement et qui n'ont toujours pas reçu de feu vert officiel pour leur mise sur le marché. Dans le passé, déjà plusieurs scandales de vaccins frelatés, contrefaits ou même périmés ont jeté en partie le discrédit sur certains vaccins chinois, même si ces 100 millions de doses du vaccin de l'allemand BioNTech contre le nouveau coronavirus ne représentent en fait que l'équivalent de la population de Shanghai et de Pékin à vacciner. Ces derniers mois, la Chine a lancé un programme d'urgence vaccinant à tour de bras déjà plus d'un million de personnes. Mais la campagne officielle dans le pays n'a toujours pas débuté, alors même que des millions de doses de vaccins chinois ont été vendus à l'Indonésie et aux Émirats arabes unis.
Stéphane Pambrin pour France Culture. Des peines allant de 4 ans de prison jusqu'à la perpétuité. Voici le verdict dans le procès des attentats de janvier 2015. Il concerne les 14 accusés qui ont donc tous été déclarés coupables de complicité après ces attentats. La plus lourde peine, la perpétuité, pour Mohamed Belhoussine, considéré comme le mentor d'Amedi Coulibaly. 30 ans de prison contre Ali Riza Polat, le principal accusé, qui a eu, selon la Cour, un rôle particulièrement actif et transversal dans la préparation des attentats. 30 ans de prison donc, assorti d'une période de sûreté des deux tiers. Ali Rizapolat va faire appel de cette condamnation, mais le sens de ces peines va au-delà des peines de prison prononcées, selon maître Richard Malka. Il est l'avocat historique de Charlie Hebdo.
Il n'y a pas à commenter, il y a à prendre acte de ces peines. Maintenant, ce qui est peut-être plus important, c'est le message qui est délivré par la société française au travers de sa justice. C'était le procès d'une nébuleuse, de personnes plus ou moins proches des terroristes, ayant fourni plus ou moins d'aide à ces terroristes. Et ce que dit cette décision, c'est que sans cette nébuleuse, il n'y a pas d'attentat. Sans la nébuleuse, il n'y a pas de terrorisme. Et que toute personne qui participe à cette nébuleuse peut être sanctionnée très sévèrement. Et c'est évidemment nécessaire au regard de la situation de notre société et du pays. Et j'espère que ce message sera entendu. Alors, il ressuscitera personne, mais peut-être que ça évitera d'autres drames de se produire. J'espère que on entendra qu'en aucun cas, on ne peut participer de près ou de loin à aider quelque terroriste que ce soit.
C'était maître Richard Malka, l'avocat de Charlie Hebdo. La répression par les tribunaux continue à Hong Kong. Aujourd'hui, 8 militants pro-démocratie doivent se présenter devant la cour pour avoir manifesté contre la loi de sécurité nationale. Il s'agit, rappelons-le, d'une loi imposée par Pékin à Hong Kong dans le but de remettre l'ancienne colonie britannique au pas. Plus de 10 000 personnes avaient été interpellées l'année dernière en 2019 et les sentences à présent tombent régulièrement. Nous faisons point ce matin avec Florence de Changy.
Certes, il arrive encore même à Hong Kong que le juge acquitte tout bonnement l'accusé et reproche à la police de n'avoir fourni à la cour que des preuves peu crédibles, voire inexistantes. Ce fut le cas hier pour une assistante sociale acquittée. Mais l'impression générale, face à l'avalanche de sentences souvent lourdes, même pour des actions non violentes, est que les Hongkongais sont en train de perdre leur plus élémentaire droit d'expression. Comme le résume Marc Simon, bras droit du magnat de la presse Jimmy Lai, placé en détention provisoire jusqu'en avril, la semaine dernière.
Le délit de Jimmy, c'est d'avoir parlé et d'avoir écrit, et ils ont voulu l'empêcher de continuer. Vous mettez un homme de 72 ans en prison parce qu'il a parlé, c'est tout.
Alors que l'étranger n'entend parler que des cas les plus célèbres, des centaines d'autres citoyens sont également condamnés. La militante Chloé soutient l'activiste Tam Tak Chi, également placé en détention provisoire jusqu'en mai, accusé d'avoir murmuré un slogan potentiellement interdit.
À présent, la situation est terriblement injuste à Hong Kong. Il ne nous reste plus aucune liberté d'expression et c'est pour cela que beaucoup de gens sont tellement en colère et qu'ils se sentent abandonnés et désespérés.
Pour ceux qui peuvent se le permettre, l'exil est le seul espoir.
Florence de Changy. Le Royaume-Uni et l'Union européenne continuent toujours de négocier pour trouver un éventuel accord commercial sur le Brexit. Londres et Bruxelles se sont ainsi rejoints hier sur les conditions de concurrence équitable et sur la gouvernance de ce futur accord, mais les discussions sur la pêche sont toujours au point mort. Trois militaires camerounais sont jugés aujourd'hui dans le pays pour avoir tué en début d'année plus de 20 civils dans un village dans l'ouest du pays. Officiellement, pendant un temps, ces civils furent considérés comme des victimes collatérales d'une attaque qui visait des rebelles séparatistes, mais sous la pression des ONG internationales, l'enquête a permis de montrer qu'elle avait été menée, cette attaque, par des militaires camerounais, Claude Guibal.
Des femmes enceintes, des bébés, des enfants en bas âge, des victimes abattues ou parfois brûlées vives. Le 14 février dernier, dans les décombres du village de Ngarbou, les ONG comptent plus de 20 morts. Les témoins sous le choc racontent alors cette opération menée, selon eux, par des forces gouvernementales camerounaises aidées de membres armés de l'ethnie Peul. À l'époque, l'État camerounais dément parle de riposte à une attaque terroriste avant de devoir, sous la pression internationale, ordonner une enquête. Et aujourd'hui, ce sont trois militaires qui seront donc à la barre. Les autres inculpés sont, eux, toujours en liberté. Mais pour les familles des victimes et pour les défenseurs des droits humains, l'ouverture de ce procès est un pas important dans la lutte contre l'impunité, alors que ce massacre est une des pires exactions imputées aux forces de sécurité camerounaises depuis le début de la crise au Cameroun anglophone. Depuis 2017, cette région à l'ouest du pays vit en effet une guerre presque silencieuse qui a pourtant déjà fait plus de 3000 morts. Les séparatistes réclament l'indépendance de deux régions anglophones, un conflit hérité de l'époque coloniale et ravivée par la gestion brutale des revendications séparatistes par le régime de Paul Biya. Après la lourde répression de 2017, les groupes sont passés à la lutte armée et depuis, les civils sont pris au piège des violences qui opposent les séparatistes à l'armée, des civils victimes des exactions des deux camps qui, en les terrorisant, cherchent à les faire basculer de leur côté.
Claude Guibal pour France Culture. C'est une prouesse technologique dans l'espace. La Chine a rapporté cette nuit sans encombre des échantillons de lune. Première mission de ce type depuis 44 ans. Camille Magnard y reviendra dans sa revue de presse internationale à 7h35 sur France Culture. La météo du jour, les pluies s'éloignent par l'est ce jeudi. Ce matin, comptez 4 degrés à Besançon, 9 à Paris et 14 degrés à Montpellier. Il est 6h40.